l'écoute de Radio France Internationale. Il est 23h à Paris, 21h en temps universel.
Arthur Ponchelet.
À la une, quelle direction pour l'Union européenne dans les 5 années à venir? La question est au cœur d'une réunion des 27 ce jeudi. Rendez-vous pour décider de l'attribution des postes clés de l'UE. Vous l'entendrez, les tractations se poursuivent. On vote demain en Iran, élections présidentielles anticipées après la mort du président Ebrahim Raisi le mois dernier. Et le scrutin est plus incertain que jamais. Dans ce journal également, nous serons au Sri Lanka qui tente de se défaire de sa dette. Et puis en France, nous irons à la rencontre du photographe Raymond Depardon, dont les clichés sont affichés dans les rues de Paris à quelques semaines des Jeux Olympiques. C'est l'un des moments clés de l'Union européenne et il revient tous les 5 ans. Les 27 chefs d'État et de gouvernement se réunissent en ce moment à Bruxelles pour répartir les top jobs, les postes clés de l'UE. La présidence de la Commission, du Conseil européen et le poste de haut représentant pour les affaires étrangères sont notamment à pourvoir. Sauf que, comme toujours, ces nominations font l'objet d'intenses tractations. Julien Chavanne, les dirigeants italiens et hongrois s'estiment lésés et ils l'ont fait savoir.
La photo des 27 dirigeants de l'UE autour de Volodymyr Zelensky, invité d'honneur de ce sommet, n'aura trompé personne. La famille européenne se déchire sur les top jobs. La Hongrie et l'Italie rejettent le casting élaboré par la coalition de partis qui domine le Parlement européen. Budapest et Rome n'ont pas du tout apprécié d'être mis de côté, alors que les nationalistes ont gagné du terrain aux européennes. Giorgia Meloni a tiré la première hier en dénonçant une oligarchie. Viktor Orban l'a suivi à son arrivée ici au Conseil européen. C'est un accord honteux. Les électeurs européens ont été trompés, attaque le Premier ministre hongrois. La coalition qui a décidé pour les autres est une coalition du mensonge et de la tromperie. Les numéros 1, italiens et hongrois, n'ont pas les moyens de bloquer les nominations aux postes clés. Mais en pleine formation de la future commission, les deux pays en profitent pour faire monter les enchères et tenter d'obtenir de meilleures places. Les discussions continuent, on n'exclut personne, répondent les autres dirigeants, sans être dupes. Julien Chavanne, Bruxelles, RFI.
Et pendant qu'à Bruxelles on discute, en France, la campagne pour les élections législatives vit ses derniers instants. Le premier tour, c'est dimanche et déjà plus de 2 millions de personnes se sont inscrites pour voter par procuration. Vote record également pour les Français résidant à l'étranger, déjà près du double par rapport aux dernières législatives. Ce soir, le Premier ministre Gabriel Attal, le chef du Rassemblement National Jordan Bardella et le premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure s'affrontait lors d'un débat télévisé. La campagne pour les élections législatives et la situation politique, on y revient plus en longueur à tête reposée. Ce sera dans 24 heures en France. Vous avez rendez-vous avec Stéphane Genest dans un peu moins d'une heure. L'élection, elle, se tient demain en Iran. On vote pour élire un nouveau président. Un scrutin anticipé organisé avant la date prévue à cause de la mort du président Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère le mois dernier. Une course à la présidence qui se resserre. Sur 6 candidats, il n'en reste plus que 4. 2 prétendants au poste se sont retirés ces dernières 24 heures afin de favoriser les conservateurs. Car Muriel Paradon, le scrutin s'annonce indécis.
Le maire de Téhéran, Alireza Zakani, a annoncé qu'il ne participerait plus à l'élection présidentielle. C'est le 2e candidat à se retirer après Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi. Tous deux étaient loin dans les sondages, tous deux sont des conservateurs et ils espèrent que leurs voix se reporteront sur les candidats de leur camp les mieux placés. À savoir Mohamed Kalibaf, l'actuel président du Parlement, qui se présente à l'élection pour la 4e fois, et le radical Saïd Jalili, un autre habitué des scrutins présidentiels. Face à ces 2 conservateurs, le réformateur Massoud Pezeshkian pourrait faire la différence. Il peut susciter de l'espoir auprès d'une partie de la population, car il a fait campagne pour améliorer les relations avec les pays occidentaux afin de lever les sanctions contre l'Iran et sortir du marasme économique. Tout dépendra aussi du taux de participation, qui était très faible lors des derniers scrutins. Rappelons aussi que le président en Iran a des pouvoirs limités. C'est le guide suprême Ali Khamenei qui dirige véritablement le pays.
Muriel Paradon, tir de roquettes dans le nord d'Israël. Le Hezbollah a mené des frappes ce jeudi. Elles ont visé une base de défense aérienne de l'État hébreu à la frontière avec le Liban. Selon le mouvement islamiste libanais, il s'agit de riposte à 2 frappes israéliennes qui avaient fait des blessés un peu plus tôt. Pendant ce temps, les bombardements se poursuivent à Gaza, notamment dans le nord de l'enclave. Les civils fuient la zone par centaines alors que des tirs d'artillerie et d'hélicoptères ont fait plusieurs victimes. C'est la plus grave crise économique de son histoire récente. Le Sri Lanka est criblé de dettes. La situation est au plus bas depuis l'indépendance en 1948 de cette île de 22 millions d'habitants. Hier, on apprenait que le comité des créanciers publics, dont le Club de Paris, avait accepté de restructurer l'énorme dette du pays. Mais Colombo a conclu un autre accord, cette fois avec une banque publique chinoise. Résultat, Agnieszka Kumor, le comité exige une équivalence de traitement avec la Chine.
La méfiance du comité des créanciers publics est de mise. La Chine, qui n'en fait pas partie, est le plus grand créancier bilatéral du Sri Lanka. D'un montant de 4,2 milliards de dollars, le prêt chinois fait partie de l'accord de restructuration, mais pas les 2 milliards de dollars octroyés par la banque chinoise d'import-export, l'Exim Bank. Les créanciers du Sri Lanka, dont le Club de Paris, s'étaient mis d'accord pour restructurer 5,8 milliards de dollars de dettes permettant un étalement des remboursements jusqu'à 2028. Selon le président sri-lankais, le même accord a été conclu avec la banque chinoise. Problème, aucun détail n'a filtré de cet accord. Le comité des créanciers publics, qui comprend le Japon, l'Inde, les États-Unis, le Canada et plusieurs pays européens, dont la France, compte sur Colombo pour lui fournir les informations nécessaires qui assureraient l'équivalence de traitement. La dette totale du Sri Lanka s'élève à 37 milliards de dollars.
Agnieszka Kumor du service économie de RFI. 17 personnes arrêtées, dont des militaires et plusieurs civils en Bolivie. Dénouement de la tentative de coup d'État de mercredi dans le pays. Souvenez-vous, un général de l'armée bolivienne avait tenté de renverser le président de gauche, Luis Arce. Des chars avaient occupé la place Murillo, là où se trouvent le Parlement et le gouvernement. Mais ils se sont finalement retirés. Depuis, les arrestations se multiplient chez les militaires. Ce soir, l'Organisation des Nations Unies demande une enquête impartiale, mais aussi un procès équitable pour les détenus. C'est une légende vivante de la photographie. Raymond Depardon n'a pas couvert que les guerres d'Algérie et du Vietnam. Il a aussi photographié 5 Olympiades entre 1964 et 1976. À l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, la ville de Paris met le grand photographe de l'agence Magnum à l'honneur. Plusieurs de ses photographies sont affichées en format XXL dans les rues de la capitale. Isabelle Chenu a rencontré Raymond Depardon à l'occasion de cette exposition Grandeur Nature.
Ce qui est formidable, c'est qu'on va voir des gens qui vont sortir d'eux-mêmes un exploit parce qu'ils n'auraient pas pu le faire ailleurs que dans les Jeux Olympiques, avec tous les spectateurs qui vont être là, devant la télé, tout le monde va...
À bientôt 82 ans, Raymond Depardon n'a rien perdu de son enthousiasme pour les Jeux Olympiques. Lui qui a su capturer en une fraction de seconde le point levé de l'Américain Lee Evans. On est en 1968 à Mexico et le vainqueur du 400 mètres proteste avec d'autres athlètes afro-américains contre la discrimination raciale aux États-Unis. Son portrait s'affiche désormais sur 600 mètres carrés en face de l'hôtel de ville de Paris. Des photos réalisées à une époque où la pellicule argentique ne pardonnait rien, comme cette image de la jeune gymnaste roumaine Nadia Comăneci, médaillée d'or en 1976, capturée en saut périlleux parfait sur la poutre.
Il y a un côté de démocratie, tous les pays ont leur chance. C'est très émouvant comme ça, de voir des gens qui montent sur le podium, même à la troisième place, et qui sont tout émus. Puis d'un seul coup, l'hymne national résonne dans ce stade avec 100 000 personnes, et c'est formidable.
Pour Raymond Depardon, photographe de la décolonisation et de la guerre, les Jeux Olympiques sont un moment sans équivalent de compétition pacifique mondiale.
Les Jeux Olympiques côté culture, mais aussi côté sport, avec ce jeudi un coup de tonnerre en athlétisme. La sprinteuse jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, championne olympique en titre des 100 et 200 mètres, a déclaré forfait. La quintuple médaillée d'or s'est blessée lors d'une course, c'était début juin à New York. Conséquence, eh bien, elle ne pourra pas participer aux sélections jamaïcaines. Pour la Jamaïque, c'est donc une véritable chance de médaille qui s'envole à quelques semaines des Jeux Olympiques. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, on va continuer de parler de sport. C'est Radio Foot International qui vous attend à l'écoute de la Radio du Monde.